Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Desmentis, vous écoutez Le Club Desmentis et ce soir, on va parler du livre Exa de Gabriel Filto-Chiba. C'est publié aux éditions XYZ. Et ce livre-là, c'est une recommandation de MAPS.
Coucou.
Alors, pour en parler, je suis avec MAPS. Bonjour MAPS.
Bonsoir. C'est un petit peu de misère avec votre micro, monsieur Démenti.
Moi, j'ai la misère avec mon micro, oui, mais là, je l'ai débranché, je l'ai branché, ça devrait être correct. Bonjour, Maps, ça va bien?
Bonsoir. Oui, ça va bien, toi.
Et je suis aussi en compagnie de Karine. Bonjour, Karine.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Super. Bon, on va pouvoir lancer cette conversation sur ce livre. Qu'est-ce que ça raconte? Mais premièrement, c'est un club de lecture, je le répète encore. On va parler du livre de fond en comble. Donc, on va retenir aucun divulgateur. Et donc, de quoi ça parle ce livre-là? Ben, en fait, ça se passe dans un futur proche, point d'interrogation, plus ou moins proche. Il y a des femmes qui sont choisies. En fait, on va suivre Tali qui est une adolescente qui se fait choisir pour accompagner sa mère dans ce groupe de femmes-là qui sont choisies pour replanter des arbres. Je pense que pour partir, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est pas mal ça, là. Ça se passe dans l'avenir. On a besoin de replanter des arbres, de repeupler la forêt. Et il fait chaud. C'est ça que j'ai envie de dire. Il fait vraiment très chaud. Puis c'est drôle parce que l'été dernier, on a lu The Shards de Bret Easton Ellis, puis ça se passe en Californie, puis il faisait chaud, puis j'ai lu ça l'été à l'extérieur, j'ai comme « Ah, il fait chaud, c'est le soleil de la Californie ». Là, dans Exa, il fait chaud, mais c'est chaud comme la planète est en train de mourir. C'est pas « il fait chaud, le fun ». C'est vraiment un drôle de contraste. Donc, ben, c'était pas ton choix, c'était mon choix de me laisser influencer par toi, Maps, mais qu'est-ce que tu as aimé de ce livre-là et pourquoi tu nous en as parlé avec autant d'amour?
Écoute, pour la petite histoire, la première fois que j'ai entendu parler de ce livre-là et que je l'ai acheté, c'est au Salon du livre de Montréal. On a fait le tour des différentes maisons d'édition, puis on a jasé avec une attachée de presse, je pense, de cette maison d'édition-là. Puis elle m'a parlé de ce livre-là, Gabrielle Filto-Chiba, je l'avais déjà lu avec En cabané, fait que je savais qu'elle était très atmosphérique comme autrice, qui n'est pas nécessairement dans mes cordes habituellement, mais je me souvenais avoir eu un bon feeling malgré tout. Puis là, on me parle genre dystopie avec Gabriel Filto-Chiba, fait que j'étais comme j'achète, tu sais, ou science-fiction, tu sais. Fait que je l'ai acheté, puis au mois de mars, j'ai décidé de lire bien des trucs dans ma bibliothèque. Puis j'ai lu ce livre-là et ma foi, la révélation. Je suis sortie de ce livre-là, la bouche à terre, j'étais comme ça s'en va dans mon top 10 de l'année. J'ai adoré l'écriture de cette autrice-là. Oui, c'est peut-être comme le petit bémol que j'avais dit dans ma vidéo, c'est que c'est peut-être un petit peu plus descriptif que mes préférences, mais malgré tout, je trouve que ça fait vraiment partie de l'expérience, tu sais. C'est atmosphérique, on est dans la nature, c'est sensoriel comme œuvre. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que souvent dans les dystopies ou tu sais, dans la science-fiction, lorsqu'on a des cités contrôlantes, puis on est souvent en train de suivre des protagonistes qui essayent de sortir de tu sais, de s'affranchir ou de renverser le système, alors que là, on n'est pas là-dedans, tu sais. Oui, forcément, la mère qui s'appelle Sandrine, elle sort de là pendant 8 mois pour reboiser. Donc, elle est malgré tout libre, pas tout le temps encabanée dans ce système-là, mais son mari puis sa fille y habitent. Donc, tu sais, il y a comme, je trouvais qu'il y avait une tangente différente à un concept qu'on a déjà vu à plusieurs reprises. Puis moi, ben, ça a été une montagne russe d'émotions. Bon, je sais qu'on peut divulgâcher, mais la première partie est comme un événement très chargé, puis on va changer de narration. Au début, on est avec Tali, puis après ça, on est avec Sandrine. Moi, j'avais le cœur qui pompait, là. J'étais tellement sénère. Puis à la fin, même chose, tu sais, je me disais, il y a deux scénarios possibles, puis comme si c'est le scénario heureux, je braille de joie. Si c'est le scénario triste, je braille de tristesse, tu sais. C'est comme j'étais vraiment investie dans ce livre-là. Ça a été un plaisir de lire. Ça a été des personnages que j'ai aimé fort, 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 des sujets super intéressants. Fait que j'étais comme, je dois crier haut et fort mon amour pour ce livre-là. Je trouvais qu'il n'était pas assez mis de l'avant. Voilà pourquoi je vous ai crié ça dans les oreilles.
Ben, merci de l'avoir fait. En fait, j'ai juste une petite question pour toi, là, parce que moi, je le lisais puis je me disais, peu importe ce que moi j'en ai pensé, ça m'a surpris que toi t'aimes ça. Qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de descriptions, il n'y a pas une ligne directrice nécessairement claire. T'sais, moi, je le lisais puis j'étais comme, je ne sais pas où on s'en va. Moi, ce n'est pas des choses qui me dérangent.
Que tu lis pas tant non plus?
Oui, c'est ça aussi. C'est quand même particulier que ça t'ait plu malgré toutes ces choses qui ne te plaisent pas généralement.
Ben, ça, pour moi, c'est le signe d'un ouvrage gagnant. Oui. Lorsqu'un livre peut me faire apprécier des choses que je n'apprécie pas chez tous les autres livres, je me dis, ça stand out. Il y a comme, y a du gros potentiel. Mais la science-fiction, j'en ai pas énormément, mais ça a souvent tendance à aller dans mes cordes parce que l'injustice, c'est comme, ça me gronge. Mm. Puis, c'est peut-être le seul point qu'il y avait pour lui, mais tout le reste, pas tant, au préalable.
Oui, mais en fait, il faudrait que Gabriel Filto-Shiba écrive une comédie romantique, peut-être que ça te plairait.
Bon boy, bonne chance.
Karine, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre-là?
Mm-hmm. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, j'ai été agréablement surprise parce que j'avais aucune idée sur la science-fiction, puis vu que c'était une recommandation de mars, je ne m'attendais pas du tout à sur la science-fiction.
Surprise!
J'ai beaucoup, beaucoup aimé le fait qu'on suit, éventuellement trois générations de femmes, avec trois réalités, c'est comme la continuation d'une génération à l'autre, que j'ai vraiment beaucoup aimé. L'importance qui est mise sur les relations mère-fille, sur la façon dont c'est une relation qui est des fois pas toujours évidente, mais comme, tu sais, c'est pas la relation conflictuelle qu'on a en temps normal. Les liens entre les femmes sont vraiment très beaux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai beaucoup, beaucoup aimées qui sont venues me chercher, genre, vraiment profondément. Tu sais, le seul petit bémol que je mettrais, c'est que c'est un roman qui nous parle beaucoup, tu sais, du lien à la nature, puis de savoirs ancestraux, puis tout ça, mais qui réussit quand même à faire que les Premières Nations sont pratiquement une note de bas de page pour nous dire « Ah, faut pas croire ce qui est écrit dans les notes dans les livres d'histoire! »
Ouais.
Ça, c'est comme « Ilalalalalalala! »
Ouais.
Genre, tu sais, les savoirs ancestraux dont tu parles, c'est les savoirs des Premières Nations, puis tu les réduis à « Ils n'existent plus, carrément, là! »
Non.
Genre, ça, j'ai trouvé ça vraiment très dommage. Parce que sinon, le livre est super intéressant, le message est super beau, les relations entre les personnages sont vraiment belles, toutes celles qu'on voit qui se développent, les différentes façons d'être ensemble, c'est vraiment super intéressant pour un paquet d'affaires. Mm-hmm. Mais moi, c'est vraiment ça qui a... Parce que en tant que tel, ça aurait été un coup de cœur. C'est vraiment ce détail-là que j'étais comme...
Mm-hmm.
Ouais... J'ai trouvé un peu dommage parce que vraiment les savoirs ancestraux dont tu parles, c'est ça. Le lien à la nature, l'importance de préserver la nature, tout ça, c'est encore ce que les Premières Nations à travers le Canada essayent de faire. C'est la seule chose que vraiment je trouve dommage, mais parce que sinon ce livre-là avait vraiment tout pour me plaire. Genre, les relations des personnages sont super belles. Puis la relation mère-fille particulièrement, j'ai trouvé vraiment, vraiment le fun parce que c'est pas le genre de relation mère-fille qu'on voit souvent dans les littératures, tu sais.
Mm-hmm. Oui, le lien entre les femmes est vraiment le fun. Là. Dans tout ce. Tu parles de la relation mère-fille, là, mais même plus large, je trouve que cette espèce de groupes de femmes qui travaillent dans la forêt, là. Et je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes. On les connaît pas toutes du même niveau, là. Il y en a qui sont très secondaires, là, mais leur présence est quand même importante. Puis ça, effectivement, c'est un aspect que j'ai aimé. Mais pour revenir à ton point, en fait, puis c'est pas de l'excuser, là. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, ça aurait dû... On aurait dû en apprendre davantage là-dessus, mais en même temps, c'est vraiment dans l'univers qu'elle a créé, ça fait du sens dans le sens qu'on n'a pas accès à la littérature, on n'a pas accès à grand-chose, on n'a pas accès à l'information, donc c'est vraiment des personnes blanches qui reconstruisent avec les connaissances qu'elles ont.
Oui, pas... mais tant qu'à faire ça, au moins évacuer complètement.
Ouais.
Genre, mets-moi les pas en note de bas de page comme ça, tu sais.
C'est vrai, c'est vrai.
Genre, dans le pire des cas, si tu veux construire un monde comme celui-là, ben tu sais, comme, fais juste pas... C'est possible de juste comme... Pas, ça aurait été possible d'enlever ce détail-là, puis genre, ça aurait rien changé à l'histoire, là.
C'est vrai. T'as bien raison, t'amènes un bon point. C'est intéressant. Moi, j'ai un autre point un peu négatif. Et là, je vais commencer par dire que je l'ai aimé, le livre. J'ai aimé ça. Parce que vous me connaissez, quand le ciel est gris, je le colore. Je risque de m'enflammer un peu. Mais j'ai aimé le livre. J'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que l'aspect femme forte était vraiment le fun. L'aspect groupe de femmes était vraiment le fun. Puis j'ai trouvé ça amusant de voir comment les hommes étaient réduits au rôle de femmes dans les livres écrits par les gars. C'est vraiment ça. Fait que je trouvais que c'est un beau revers de situation. Il y a une affaire que j'ai pas super trippée. En fait, j'étais dedans, là. L'univers est hyper intéressant. Suivre la narratrice. Faut que je dise quelque chose. Ça m'a pris du temps à lire ce livre-là. Ça m'a pris comme une bonne semaine et demie. Si vous écoutez mon dernier épisode du Club des Mentis sur Jusqu'à ce que ça fasse bang, peut-être que vous entendez un petit peu ma voix qui commence à partir. J'ai eu la COVID. Fait que j'ai lu ce livre-là avec la COVID. Donc, c'est-à-dire très peu de pages par jour. Là. Je l'ai lu comme je pouvais me concentrer. C'était difficile. Mais c'est pas du tout à cause de la qualité du livre. Là. J'ai beaucoup aimé ça. Puis même au contraire, j'aimais être dans cet univers-là. Puis je suis quasiment content. Je suis pas content d'avoir eu la COVID. Là. C'était vraiment pas le fun. Mais je suis quasiment content d'avoir été forcé de le lire aussi lentement parce que je me suis vraiment plongé dans cet univers-là. Puis je suis resté là longtemps. Puis ça, j'ai apprécié ça. J'apprécie beaucoup l'écriture aussi de Gabriel Filto-Shiba. Là, mon point, là, c'est que tu as un univers qui est hyper original.
On t'entend plus. Choque-toi pas de même, là. Tu devais prendre une bonne respiration. Dis-nous tout ça calmement. Ça soulève les passions.
Vous m'entendez pas?
Ah, oui, on t'entend.
OK, super. Bon, je m'excuse. Ma pile de livres est tombée sur mon fil, puis c'est ça qui s'est passé. Mais c'est ça. Fait que là, tu as créé cet univers-là, puis la langue est belle, puis les personnages sont intéressants. Mais là, Tali, elle tombe amoureuse du garçon de la forêt. Mais là, elle voit le garçon de la forêt dans les bras d'une autre fille. Oh non, catastrophe! Je suis une conne! Pourquoi je lui ai fait confiance? Puis là, mais oui, mais Tali, t'étais pas là hier soir. Mon frère a pas arrêté de parler de toi. Oh, c'était son frère! Oh, je suis une conne!
Oui, mais... Au moins, ça se fait qu'en 3 coups de cuillère à café, tu sais, t'apprends pas genre 10 chapitres.
Mais justement, c'est tellement un cliché gros comme le bras. Elle aurait pu juste ne pas prendre ce détour-là, puis passer par-dessus, puis que ça arrive pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle cherche à faire en incluant un cliché aussi gros. J'étais comme, au début, j'étais dans Mad Max, puis là, je suis dans un film de Hallmark. J'étais vraiment frustré. Ce petit bout-là, là, ça dure 3 chapitres, après ça, c'est fini. Puis, tu sais, c'est facile de faire semblant que ça n'existe pas, mais moi, ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment fâché. Puis, en fait, ça m'a fait un peu peur, parce que là, je parlerai pas nécessairement de la fin, mais tu sais, on suppose qu'il y aura probablement un autre livre là, dans cette... On nous l'a annoncé comme un cycle, donc il y aura probablement un autre livre dans cet univers-là, puis là, Ça me fait un peu peur parce que j'ai peur que ça devienne la belle adolescente, mais tellement commune, mais que tous les gars trippent dessus. Puis là, qu'est-ce qu'elle va choisir? Le beau gars de la forêt qui est gentil ou le bad boy de la ville? J'ai un peu peur que ça en aille là, tu sais. Ça va être bien écrit, puis le monde est le fun, puis tu sais, l'univers est cool, mais j'ai peur qu'elle aille là.
Mais en même temps, quel âge dont la protagoniste, ça fait une couple de mois, je ne l'ai pas lu. Elle n'a pas cet âge-là.
Elle a 16 ans à peu près, là.
Elle a 16 ans. Mais genre, oui, d'accord.
À 16 ans, tu veux un cliché
normal,
en plan.
C'est normal, tu sais.
Mais c'est ça, le pire, c'est que je me suis demandé qu'est-ce qu'elle essaye de faire en incluant... Parce que, tu sais, elle sait, là, que l'autrice, elle le sait, là, que c'est un cliché, là. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire en incluant ce cliché-là que c'est super cliché, puis comme je disais, tu clignes des yeux, puis tu l'as manqué. Fait qu'est-ce qu'elle essaie de faire en incluant ça? Est-ce qu'elle veut dire que même dans l'avenir, les adolescentes sont encore... Je sais pas qu'est-ce qu'elle essaie de dire. Ça m'a vraiment troublé qu'elle inclue ce...
Je pense pas truc-là. Qu'il y ait tant de choses à comprendre que ça, à part que Thalie, c'est une adolescente de 16 ans qui a les hormones dans le plafond, puis qui tombe en amour à the drop of a hat, là, tu sais.
Mais qu'elle tombe en amour vite.
Tout devient dramatique vraiment facilement quand t'es une fille de 16 ans. Je sais que je sais pas c'est quoi, mais comme, crois-moi, oui, c'est genre, les grains de sable deviennent facilement des montagnes là, quand t'as 16 ans.
Mais c'est même pas qu'elle tombe en amour avec le gars ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'idée que, ben non, c'était sa sœur. Ça m'a vraiment gossé. Mais bon, bref, c'est vraiment...
Moi, je préfère ça, d'avoir une adolescence super dramatique qui se fait un grain de sable avec une montagne, que de se ramasser dans un triangle amoureux avec quelqu'un avec qui elle avait une super bonne relation jusque-là, là, tu sais.
Ouais.
Parce que t'es la seule fille qui est de son âge. Fait que c'est comme... Une affaire même réglée en 2-3 coups de cuillère à café, c'est correct, elle a 16 ans, là, tu sais.
Oui, puis tu sais, je l'admets, là, j'en ai parlé plus longtemps que ça va vous prendre de temps de lire ce passage-là, tu sais. mais quand même. Puis, en fait, c'est ça, t'en as parlé brièvement aussi, mais il y a la grand-mère qu'on suit. Puis on ne sait pas vraiment que c'est la grand-mère, vraiment, jusqu'à la fin. Là, c'est Exa, c'est le personnage qui porte le titre du roman. Puis elle aussi, elle est intéressante, mais elle est tellement détachée du reste que j'ai pas été entièrement satisfait de la conclusion.
J'espère vraiment que les prochains livres vont nous en dire plus sur elle. Genre.
Oui.
Parce que là, on a eu comme pas mal toute l'histoire de Thalie, on a pas mal tout eu l'histoire de Sandrine. Là, c'est à son tour. Donc, on sache d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qui est arrivé. C'est clairement, elle a un bagage comme énorme, cette femme-là. Devenir
ce
qu'elle est, puis vivre comme elle vit, là.
Oui. Comme des petits fragments. Au début puis à la fin, hein, si je me souviens bien. De...
Ben, un peu...
Il y en a un peu partout dans le roman, je te dis.
Ouais, mais c'est très bref, là.
Ouais, c'est
pas...
c'est
des très, très
courts chapitres, là, une fois de temps en temps, là.
On sait pas grand-chose.
Honnêtement, pendant un petit... J'ai compris... peut-être à la moitié du roman, c'est comme un peu les liens... Mais j'avais pas compris exactement le lien, mais comme... Parce que comme j'aurais dit que c'était que la mère, c'était la mère de qui, je l'aurais jamais dit, là.
Non, c'est ça. Moi, je l'ai su quand elle nous l'a dit, là. Je l'ai pas vu venir.
Mais c'est comme que c'était la mère. En fait, moi, là-bas, j'étais sûre que c'était la mère de la mère, là, tu sais. C'était comme
logique, là. Ouais. J'avoue qu'elle est intrigante, celle-là.
Si
on peut en savoir plus. J'avais même pas réalisé qu'elle allait avoir une suite ou un cycle de...
Ben, ça dit que c'est le quatrième de couverture, que c'est le premier d'un cycle, genre un nouveau cycle, chose comme ça.
Ça morce, oui, c'est ça. Avec Excel, un nouveau cycle, ça morce, tourné vers un avenir de tous les possibles. Mais là, tu sais, c'est expliqué de cette façon-là, mais peut-être que son autre livre, ça va juste être une autre science-fiction. Là, je ne sais pas à quel point ça va être relié à celui-là, mais quand
en
je
même
finis
temps,
ce livre-là...
Il y a comme beaucoup d'éléments qui se restent en suspens, tu sais, à la fin, là. Avec genre, tu sais, ben justement avec Exa, qu'on suppose qu'elle est encore en vie, avec Finn, qui a des liens qui ont été créés. Fait que, comme clairement, il y a une porte d'ouverture pour un temps suivant. Là.
Oui, Finn qui est l'amoureux de Tali, mais dans la ville. Mais là, il ne sait pas encore qu'elle, elle a un autre amoureux dans la campagne.
Oui, puis t'ajoutes aussi que c'est le, tu sais, que c'est sa mère biologique, c'est une des femmes.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Oui, puis c'est vraiment tragique de suivre l'histoire de cette femme-là aussi, qui se fait dire que son enfant est mort. Puis il y a beaucoup. Il y a beaucoup de petites choses. On sent que le gouvernement a vraiment main basse sur la société, mais c'est vraiment des petits clins d'œil, c'est des petites informations qu'on a ici et là. Fait que je pense qu'il y a, beaucoup de choses à développer. Puis à la fin du livre, ben, ça finit en espèce de début de rébellion, mais c'est pas vraiment une rébellion, c'est plus une fuite.
Ouais.
Fait que, ben là, s'ils sauvent, sûrement qu'il y a du monde qui vont courir après, je sais pas. Mais moi, je la veux. Moi, je la veux, la suite. Pour vrai, je l'attends. Puis je suis pas mal déçu parce que je suis pas mal sûr que ça sortira pas cette année.
Non, je pense pas. En tout cas, on l'a pas vu dans les sorties de cette année.
Non, c'est ça. Mais je vais attendre la suite avec impatience parce que j'ai beaucoup aimé ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur EXA? Ça fait juste 20 minutes qu'on en parle? Ça fait juste 20 minutes qu'on en parle?
On n'est pas, on n'est pas en train de chicaner, fait que ça va plus vite dans ce temps-là. Ouais.
Je peux revenir sur le frère qui est le frère de l'autre. Là.
Oui, c'est ça. Ben, dans mes points, en tout cas, je me suis réécoutée aujourd'hui, là, parce que ça faisait quand même depuis mars que je l'avais lu. Mais c'était pas mal ce qu'on avait parlé. Puis, tu sais, pour moi aussi, si je pense que ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est les thématiques, on a un petit peu parlé, mais tu sais, la sororité, c'est rare qu'on a ça aussi beau puis positif dans un ouvrage, la liberté, l'environnement. C'est des thématiques actuelles et en même temps qu'on aimerait qu'elles soient plus actuelles.
C'était vraiment un beau groupe là, de femmes. Tu sais, moi, j'étais comme... J'aurais voulu être amie avec ces filles-là. J'aurais pas été inclus dans leur groupe, là, mais j'aurais vraiment désiré être dans ce groupe-là. Puis, c'est pas mal ce que j'avais à dire. Si vous avez rien d'autre à rajouter sur EXA, autre que c'est vraiment très bon, c'est de la science-fiction québécoise, c'est bien écrit, puis ça vaut la peine de le lire. Si vous avez rien d'autre à ajouter. On peut déjà passer.
Comme on l'a dit aussi, comme tu dis, c'est vraiment très bien écrit. Je pense que ça, c'est important de souligner parce que souvent, la littérature de genre québécoise, l'écriture va les faire désirer, alors que là, on a autant les éléments intéressants au niveau du genre qu'on a une écriture qui est vraiment fascinante et que c'est vraiment le fun à lire.
Oui, puis c'est pas... C'est vraiment différent de ce qu'on peut lire dans le genre. Tu parles de littérature québécoise, puis je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une pépite, mais même au niveau international, je trouve que ce livre-là se démarque. Une originalité qu'on ne retrouve pas forcément dans la littérature de genre at large. Mais bref, on vous le recommande fortement. Et parlant de recommandations, nous avons des recommandations culturelles. Matt, qu'est-ce que c'est?
Alors, mon amie Daphné m'a envoyé une entrevue de Fanny Demeule, donc j'écoute ça sur audio. Puis, la petite annonce avant l'entrevue, ça dit qu'il y a un podcast qui s'appelle Fidèle au poste. Je pense que je suis en train de faire un lapsus. Là. En tout cas, je suis en train de le chercher. C'est un podcast, une émission qui parle des sectes, les sectes les plus importantes des dernières décennies. Fidèles sous emprise. C'est beaucoup plus logique d'un coup. Donc, c'est ça. C'est une émission, émission de 30 minutes qui relate différentes sectes autour de la planète qui ont été vraiment importantes, puis vraiment grandes et qui ont très médiatisé. Et c'est ça, moi, là, j'ai commencé ça, j'avais des frissons partout sur le bras. Les trois premiers épisodes, c'est ceux que j'ai écoutés pour l'instant parce que ça parle de la même secte, une secte qui était à Short Creek, dans les États américains, aux États-Unis. Et puis, Au début des années 1950, l'Église mormone était très polygame, mais c'était super mal vu, puis c'était surtout illégal dans cet état-là. Donc, ils ont comme décidé de modifier leurs écrits, puis de devenir monogame. Sauf que ça n'a pas fait l'affaire d'une partie très extrémiste de cette église-là. Donc, il y a comme une partie de cette église mormone qui est séparée, puis qui s'appelle, l'acronyme c'est FDS, c'est comme les fidèles des derniers jours du Saint-Esprit. En tout cas, c'est un terme non. Puis ceux-là, ben, il y a eu des hauts et des bas dans cette section-là, FDS, dépendamment des prophètes. Des prophètes qui se disent éternels et qui meurent tous un après l'autre. Des personnes qui posent des questions. Mais bon. Et c'est ça. La polygamie, elle était gérée par le prophète. Les hommes offrent leurs enfants au prophète qui décide avec qui il va les marier. Lui, un des plus fameux, des plus famous, c'est donc fameux, des plus populaires, mais pour de mauvaises raisons, et il a été même recherché, un des 10 hommes les plus recherchés sur la planète en même temps, genre que Oussama Ben Laden. Ben, il y avait genre 75 femmes, okay? Genre 30 épouses. Puis lui aussi, les problématiques avec ça, c'est qu'il était de plus en plus jeune. Donc, il est marié à 12 ans, genre. Puis qu'il était obligé d'avoir des relations sexuelles. T'sais, les femmes, pour avoir accès à leur ciel, devaient être soumises, forcément. Puis les hommes, pour avoir accès à leur ciel et être sauvés lors du jour du jugement dernier, il fallait qu'il y ait le plus de femmes possible. Puis, si les femmes voulaient accéder à leur ciel, même s'ils avaient été fines et obéissantes, il fallait que leur mari le décide cette journée-là, tu sais, le jour du jugement dernier, qu'ils se disent, ben, finalement, je vais t'amener aussi. Mais en tout cas, puis là, il y a des témoignages, il y a des livres qui ont été écrits aussi, des personnes, des femmes qui sont sorties de cette secte-là, puis qui ont participé au procès contre un des plus grands prophètes. J'avais envie de tout lire ça, mais c'est vraiment bien expliqué, c'est assez concis. Puis il y a des moments très importants de la secte, les moments que ça allait bien, puis aussi toute l'opinion des citoyens autour qui a changé au fur et à mesure des opérations policières qui ont été faites, puis l'opinion médiatique avec le groupe, tout ça, je trouvais ça tellement intéressant. Mais vous savez, j'ai une petite fascination sur les sectes. Donc, mais tu sais, le pouvoir qu'une seule personne vraiment charismatique qui sait parler aux autres, ça peut faire, là. Le dernier épisode que j'étais en train d'écouter, l'une des femmes qui a fait partie du procès contre le grand prophète, elle disait qu'il y avait des événements célestes, là, des divinations célestes, puis ça considérait en le fait que le gourou il expliquait aux jeunes femmes de 12 ans, entre autres, ces femmes, les bonnes manières de lui faire du plaisir sexuel. Puis là, c'est comme mélangé à des belles phrases religieuses. Il paraît que c'était comme complètement tordu et... Ouais. Fait que c'est ça. C'est pas pour les cœurs sensibles, mais c'est vraiment intéressant. Donc, voilà ma petite découverte fidèle sous emprise.
Ça, sur audio. Sur audio, c'est ça. Ouais. Okay. Ben moi, je vais écouter ça, mais j'ai envie de t'envoyer... Est-ce que tu as regardé le documentaire sur Raël?
Non.
C'est sur Netflix. Puis, tu sais, quand tu disais qu'il y a une personne... Ben, ça rejoint un peu mon obsession du moment, c'est-à-dire le mensonge. C'est comme... En fait, ça retrace vraiment les débuts de Raël où il disait qu'il avait rencontré un extraterrestre et tout ça. Puis là, il a construit sa secte. Puis à un moment donné, il arrive, tu sais, il y a ses fidèles, là. Puis à un moment donné, il arrive, puis il dit, je suis retourné, j'ai revu les extraterrestres, ils m'ont amené dans leur vaisseau, puis il y avait Jésus puis Bouddha dans le vaisseau spatial. Puis il raconte ça à ses fidèles, puis tu te dis comment quelqu'un peut arriver avec une histoire comme ça, puis les gens, ah ben oui. Ça a l'allure. Tu sais, c'est vraiment fou. Mais je m'excuse, c'est juste ma recommandation personnelle à toi.
J'aime ça, j'aime tout ça.
Karine, qu'est-ce que tu as à nous suggérer?
C'est aussi un balado. C'est pas encore... La nouvelle saison n'est pas encore commencée, en fait. C'est vrai que la rentrée qui arrive, toutes les émissions recommencent. Et il y a, entre autres, Occupation double dans la nouvelle saison s'en vient. Et tu as le balado Les ficelles qui, à chaque semaine, dissèque, en fait, pas dissèque les épisodes, c'est une analyse féministe d'Occupation double.
Okay.
C'est super intéressant. Chacune des intervenantes regarde les épisodes, se choisit un sujet, puis utilise, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine pour discuter d'un sujet avec une loupe féministe, dans le fond.
Mmh.
Personnellement, je trouve ça vraiment super intéressant. Fait que si vous aimez Occupation double ou si vous aimez voir la culture québécoise disséquée sous une lanterne féministe, puis voir qu'est-ce que ça nous dit, ce qu'on voit à la télé sur, par exemple, les relations hommes-femmes, puis comment ça évolue avec le temps, c'est vraiment super intéressant. Il y a des saisons qu'honnêtement, je suivais à peine la saison, mais j'écoute les ficelles quand même parce que je trouve que leurs points sont toujours pertinents à la réalité dans laquelle on vit, puis à ce qui se passe autour de nous, en fond.
Ben, en fait, c'est la question que j'avais envie de te poser. Si, mettons, moi, je ne regarde pas Occupation double, c'est-tu quand même intéressant?
Je pense que oui, parce que leurs sujets sont vraiment documentés. C'est pas juste...
Okay.
C'est pas juste Occupation double, dans le fond. Elles vont partir des événements qui se sont passés pendant la semaine pour s'inspirer. Le trois quarts du temps pour s'inspirer. Elles vont vraiment se documenter, elles vont trouver des points de vue d'experts pour expliquer. Par exemple, il y en a une à un moment donné qui a parlé, ils ont parlé des défenses, ils ont parlé d'intimidation, ils ont parlé du negging, ils ont parlé, tu sais, c'est vraiment des sujets très larges, mais ils s'inspirent de ce qui s'est passé dans la semaine pour en arriver sur ces sujets-là. Donc.
Mm-hmm.
Pense que ça peut être intéressant quand même. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment décroché d'Occupation double puis écoutent encore le podcast parce que justement c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment super intéressant. Comme je disais, j'ai commencé à l'écouter alors que j'étais pas tant accrochée genre à Occupation double, puis je l'écoutais quand même parce que j'aime vraiment la façon dont les filles en parlent, dont les filles en discutent à la fois de la série, de ce qui se passe et de sujets qui sont vraiment plus larges. Puis, tu sais, comme moi, tous les trucs féministes, ça m'intéresse. Donc, forcément, ça rejoint mes intérêts.
Ben, merci beaucoup. Je me serais pas dirigé vers ce podcast-là, mais là, tu me donnes vraiment envie d'y prêter l'oreille.
Ben, leurs anciennes saisons sont comme toutes déjà disponibles. Fait que si tu veux, tu peux écouter genre juste un épisode, puis tu verras si c'est ton truc ou pas. Là.
Ben, en fait, c'est ça. Là, pendant que tu parlais, moi, je me disais, moi, je l'ai Occupation double. C'est pas une émission que je regarde tant que ça. Il y a une année que j'ai commencé à la suivre. C'était l'année que tout a pété. Là. Fait que c'était la bonne année pour l'écouter. Fait que je me suis dit, ah ben je pourrais écouter des épisodes sur cette saison-là. T'sais.
Effectivement.
Excellent. Ben, je te remercie beaucoup. Je vais y prêter. Puis en plus, j'aime beaucoup ça, moi, tout ce qui est analyse de médias. Fait que ça me tente, c'est dans mes cas. Moi, ce que j'avais à vous recommander, ce n'est pas le documentaire de Raël, quoique, si ça vous tente, allez-y. Moi, qu'est-ce qui s'est passé là, quand j'ai fini de lire ça? J'ai tellement aimé ça, même que ça m'a pris beaucoup de temps, comme je l'ai dit, que j'ai lu En cabané de Gabriel Futoshiba. Et je vais vous le recommander. C'est vraiment très bon. C'est tout petit. J'ai lu ça en une heure à peu près. C'est tout petit, mais c'est vraiment le fun. Ça raconte, ben, de ce que j'ai vu sur la page Wikipédia de Gabrielle Futoshiba, qu'elle a clairement écrit elle-même, là, c'est un petit peu rigolo. Mais sur sa page Wikipédia, ça dit que, en fait, elle a commencé pour en revenir à un sujet dont on a parlé sur ton podcast. Sur ton podcast MAP et des faux journaux intimes. Là. Ça commençait avec son journal intime, mais elle a plongé éventuellement dans la fiction. Puis c'est très intéressant. Donc, c'est une jeune fille qui décide de quitter la ville, de s'en aller à la campagne. Elle se dit waouh, pour le même montant d'argent, j'ai tout ce terrain à moi. Puis là, ben, elle est toute seule, puis il fait fret. Puis je trouve ça le fun de lire ça en duo. Tout de suite après ou avant EXA, parce que EXA, c'est il fait chaud puis il y a bien du monde. Puis là, il fait frette puis je suis seul. C'est vraiment le contraire. Mais on retrouve la belle écriture sensible et poétique de Gabriel dans ce livre-là. Et là, je l'ai fini hier. J'ai regardé l'heure. J'ai fait hey, la librairie ferme dans une heure, j'ai le temps. Fait que je suis allé chercher les deux autres de la trilogie, soit Sauvagine et Bivouac. Je ne peux pas vous les recommander parce que je ne les ai pas encore lus. J'ai commencé à peine Sauvagine, mais je suis tombé dedans. Là. Je suis un petit peu tombé dedans. C'est ça. Donc, excellent livre d'une excellente autrice. Et avant de vous quitter, donc, je vais vous annoncer le programme à venir pour le Club des Mentis. En septembre, on va terminer la deuxième trilogie des Chroniques de San Francisco. En français, ça s'appelle « Bye bye Barbary Lane ». C'était supposé être la fin, hein, mais finalement, ça ne l'est pas. Donc, on va lire ça en septembre. Puis, à l'automne, on va passer l'automne avec Stephen King. J'ai choisi trois livres de Stephen King. Là, vous dites, c'est un peu intense. Oui, mais il y a un but. Il y a un but. J'ai choisi ces trois livres-là pour une raison en particulier. En octobre, on va lire Shining. Ensuite, en novembre, on va lire Les Tommyknockers. Vous vous souvenez que c'est mon livre préféré de Stephen King. Il ne fait pas l'unanimité, mais moi, c'est mon préféré. Et en décembre, on va lire la suite de Shining, c'est-à-dire Dr. Sleep. Comme je l'ai dit, il y a une raison, il y a un thème derrière ces trois livres-là. Et vous allez le découvrir avec nous à l'automne. Puis après ça, en janvier, on va lire Michael Tolliver est vivant. Donc le septième tome, le premier tome de la nouvelle dernière trilogie. Et des Chroniques de San Francisco, toujours de Armitage Maupin. Donc, c'est ça le programme. C'est un programme chargé. J'espère que, si ça vous dit, j'espère que vous allez nous suivre là-dedans. Et c'est ça. Donc, on se retrouve le mois prochain pour les Chroniques de San Francisco. Un retour sur Barbary Lane. Et sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Bye.
Bye.